Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Sillé 97.9 FM. Vous écoutez Seconde Actu, une émission réalisée par les élèves de seconde de la cité scolaire Paul Scarron. Nous sommes aujourd'hui dans le studio avec trois élèves de seconde B qui seront remplacés ensuite par deux de leurs camarades. Je vais laisser immédiatement nos chroniqueurs du jour se présenter. Bonjour Maëlys.
Bonjour.
Alors, pas trop intimidée Maëlys ?
Non.
Non ? T'as déjà fait de la radio peut-être ?
Non.
Non, c'est une première ?
Oui.
Et t'es pas plus intimidée que ça ?
Non,
bah écoute, tant mieux, c'est une bonne chose. Bonjour Armand.
Bonjour.
Et toi, tu as déjà fait de la radio ?
Oui, il y a maintenant longtemps.
Il y a maintenant longtemps, dans quelles circonstances ?
Avec notre professeur de CM2.
Ah oui, donc en effet, ça commence à remonter. Ouais. Bon, très bien. Tu vas parler de quoi aujourd'hui, toi ?
De la fusion nucléaire héréditaire.
D'accord. Et Maëlys, tu...
De Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci. Bien, et bonjour Valentin.
Bonjour.
Première expérience de la radio ?
Ouais, première.
D'accord, et quel effet ça fait ?
Bah, ça va un peu stresser, mais sinon ça va.
Normal, ok. Tu vas nous parler
De la colonisation de Mars.
La colonisation de Mars, bien. Donc, nous ouvrons donc l'émission avec une rubrique scientifique ou science-fiction. Hein. C'est une des questions que nous allons essayer de trancher aujourd'hui. En ces temps de confinement, un peu de projection dans l'avenir, ça ne peut pas nous faire de mal. Et je vais donner tout de suite la parole à Maëlys, qui va ouvrir la rubrique avec un inventeur de génie qui avait anticipé bien des choses, Léonard de Vinci.
Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler d'un grand inventeur, sculpteur, peintre et bien d'autres encore, que vous connaissez sûrement, il s'agit du grand Léonard de Vinci. J'aime bien ses inventions et ses idées, mais aussi car c'est un personnage avec un grain de folie. C'était un homme en avance sur son temps, un vrai génie. Il est né le 15 avril 1452 dans le village de Vinci, près de Florence en Italie. Il a vécu au début de la Renaissance, c'est une époque marquée par un renouveau artistique intense de grandes découvertes, un bouleversement des idées et des courants de pensée. Léonard est le fils hors mariage d'un riche noble italien et d'une paysanne. Il vécut avec sa mère jusqu'à ses 5 ans, puis avec la famille de son père. Il a 12 demi-frères et demi-sœurs, mais pourtant c'est un grand solitaire. Sa première œuvre connue, c'est un dessin à l'encre représentant le fleuve Arno. Il date de 1473, il apprend la peinture à l'atelier de Verrocchio. Après son maître, il travailla sur le baptême du Christ. Il y a une légende associée à ce tableau. L'ange agenouillé de Léonard était si parfait que Verrocchio en abandonna la peinture. Léonard disait « Il ne suffit pas de savoir, il faut appliquer. Il ne suffit pas de vouloir, il faut agir. » Il est passionné par la perspective et la proportion. C'est pour cela que ses créations sont très réalistes. C'est même l'un des pionniers de ces techniques. Le corps fascine Léonard, il veut comprendre exactement comment il fonctionne et comment tous ces éléments s'assemblent. Pour découvrir tout cela, il dissèque des cadavres, ce sont généralement ceux des condamnés. Il notait toutes ses idées, mais malheureusement, seulement un quart de ses carnets est parvenu jusqu'à nous. Elle était la plupart du temps rédigée en écriture miroir, qu'il pratiquait aussi facilement que l'écriture normale. Mais savez-vous pourquoi ? Il écrirait de cette façon parce qu'il était gaucher et que cela lui évitait de faire des tâches sur le papier, car sa main ne passant pas sur ce qu'il venait d'écrire. Léonard de Vinci est un personnage fascinant qui a imaginé des machines des centaines d'années avant que celle-ci soit mise en point et fabriquée. Il en a dessiné des dizaines tout au long de sa vie. Il passe ses dernières années à Rome et en France. Invité par le roi François Ier, il poursuit ses travaux sur l'anatomie et les rapports de l'homme avec la nature. Jusqu'à sa mort, le 2 mai 1519, dans le Clos Lucé près du château d'Amboise, que je souhaiterais visiter un jour. Léonard a dit « L'art n'est jamais fini, seulement abandonné. C'est un perfectionniste. Il aurait prononcé « J'ai enfoncé Dieu et l'humanité parce que mon travail n'a pas atteint la qualité qu'il aurait dû avoir avant de mourir. »
Merci Maëlys. Alors, tu connais comment tu as connu ce personnage de Léonard de Vinci ?
J'ai beaucoup lu le livre parce que je trouvais intéressant ce qu'il faisait.
D'accord. Quel livre ? La bande dessinée ? Léonard ?
Je regardais le dessin animé aussi.
Ah, le dessin animé également, tout à fait. Et donc, La Joconde, c'est quand même l'œuvre principale de Léonard de Vinci, enfin, la plus célèbre en tout cas dans le monde. Est-ce que vous l'avez vue, cette Joconde, en vrai ?
Non, pas vue.
Non ?
Oui, oui.
Oui, tu es allé au Louvre, donc, tu as vu cette Joconde. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti en voyant cette Joconde dont tout le monde parle ?
Qu'il y avait beaucoup de monde.
Oui, beaucoup de monde. C'était avant le confinement, j'imagine ?
Oui.
D'accord.
Bien avant.
Et c'est un tableau qui est impressionnant ou pas ?
Il est difficile à voir parce qu'il est tout petit.
En effet, donc je suis assez d'accord. C'est le premier ressenti que moi, c'est que finalement, c'est très petit, la Joconde, par rapport au bruit que ça fait et au nombre de visiteurs qu'elle attire. Et donc, ce musée au Clos Lucé, tu veux aller le visiter ?
Oui, je veux aller le visiter.
Est-ce que vous autres, vous y êtes déjà allé ?
Oui, oui.
Alors, comment c'est ?
Eh ben, c'est assez intéressant, le Clos Lucé, notamment, avec toutes les inventions de Léonard de Vinci exposées dans ses jardins.
On voit les inventions, alors qu'est-ce
on peut même les tester, les interagir avec.
D'accord, et toi, Valentin, tu es déjà allé ?
Non, du tout.
Non. On peut interagir avec, et donc c'est quelles inventions qui t'ont le plus marqué
Je me souviens d'un hélicoptère, notamment, où il fallait tourner une barre pour... il ne volait pas, mais faire tourner.
Forcément.
De chars d'assaut, d'un pont aussi, qui était censé tourner, mais qui ne tournait pas.
D'accord, très bien. Merci Maëlys pour ce sujet. Je vais maintenant passer la parole à Armand qui va nous parler d'un projet qui, comme les inventions de Léonard de Vinci à leur époque, pouvait passer pour de la science-fiction. Ce projet, donc, c'est ITER, et donc tu vas nous exposer un petit peu ce que tu en sais.
Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais commencer cette rubrique par cette phrase. Et si on maîtrisait la puissance des étoiles ? Alors cette phrase semble un peu surprenante, mais c'est une réalité. En effet, depuis maintenant plusieurs années, la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon et l'Union Européenne participent au projet de réacteur à fusion nucléaire expérimental nommé ITER, chemin en latin. Et donc ce réacteur à fusion nucléaire est construit en France, à Saint-Paul-lès-Durance, proche de Marseille. Mais n'ayez pas peur, vous avez bien entendu dans la même phrase, réacteur nucléaire, fusion expérimentale et France, pas accident nucléaire. En effet, la différence entre fission et fusion est de 2 lettres, mais ça change toute la physique derrière. Dans la fission, on fissionne, entendez, on casse des noyaux d'atomes, alors que dans la fusion, on les fusionne, comme de bien entendu. Or, néanmoins, on n'utiliserait plus d'uranium dans cette fusion nucléaire, mais du deutérium et du tritium, qui sont des isotopes de l'hélium, entendez, des versions différentes. Alors, je vais vous épargner les plus compliqués détails de physique nucléaire. En soi, vous faites chauffer très fort des atomes qui finissent par fusionner et qui donnent encore plus de chaleur, une réaction en chaîne qu'on appelle du plasma. Et donc pour créer ce plasma, on utilise une sorte de gros donuts que l'on appelle un tokamak. Donc un tokamak, c'est une sorte de gros donuts où le plasma serait en fait le fourrage de ce donut. ITER n'est qu'un réacteur à fusion nucléaire à grande échelle, mais il est peut-être déjà l'avenir de l'électricité. Car avec la fusion nucléaire, on pourrait produire bien plus d'énergie qu'avec la fission, tout en utilisant des matériaux nettement moins chers. Néanmoins, cette solution n'est peut-être pas miracle au problème d'énergie, car elle présente aussi des risques. Mais la plupart restent encore à déterminer, car seul un réacteur à l'échelle d'ITER nous permettrait de les trouver et de les détecter. ITER, qui en est à 70% de son chantier, compte bien être opérationnel dans quelques années et créer ses premiers plasmas afin d'avancer sur le chemin de la fusion nucléaire.
Merci Armand. Alors qu'est-ce que tu t'intéresses à la fusion nucléaire, toi ?
Oh oui, depuis maintenant plusieurs
années. Tu envisages plus tard de travailler dans ce domaine, peut-être ?
Oui, peut-être. Pas sûr.
La physique t'intéresse ?
Oui.
Oui, on dirait bien quand même. Est-ce que tu as pu aller sur place ?
Non. C'est...
Non ? Est-ce que tu en as entendu parler ailleurs ?
Le projet n'est pas très médiatisé, enfin, sauf quand il y a une grosse avancée, mais...
Il me semble qu'à la Cité des Sciences... Moi, j'y suis allé en famille. Il y avait en effet un reportage sur ITER, justement, dans le... Comment ils appellent ça, là
La rotonde ?
La rotonde, je crois que c'est dans la rotonde, en effet. Donc, cette espèce d'écran convexe là, qui permet de regarder en 3 dimensions. Et en effet, c'est impressionnant en termes de machinerie. Alors, dangereux ou non ?
Dangereux, on ne suppose pas, hein, puisque le projet est quand même de créer un soleil sur Terre... Donc bien sûr ça comporte des risques mais qui restent encore à déterminer, même si pour le moment on suppose que si jamais il y a un problème dans la réaction en chaîne, bah ça s'arrête directement en fait.
Parce que la fusion c'est ce qui se produit dans le soleil en
oui
fait.
C'est ça, bah, dans toutes les étoiles de l'univers.
Et vous là, ça vous inspire quoi qu'on fasse ce genre d'expérience?
Ça fait peur un peu de se dire qu'il y a le soleil sur Terre.
Oui, parce qu'il est quand même beaucoup plus gros que la Terre. Et donc est-ce que vous y croyez, vous, à cette histoire de fusion nucléaire? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait résoudre nos problèmes, notamment de pollution?
Moi, je pense que ça peut être une solution pour quand le soleil va s'éteindre.
Oh, le soleil va s'éteindre? Oh, mais si je ne m'abuse pas, c'est dans 4 milliards d'années, chose comme ça. Ça nous laisse un peu de temps pour trouver la fusion nucléaire, j'espère, en tout cas. Mais est-ce que c'est une énergie propre?
Oui, plus ou moins, puisque ça rejette pas de carbone, pas de déchets nucléaires. Seul problème, il faut trouver du deutérium et du tritium, donc c'est version de l'hélium, qui sont notamment beaucoup présents dans l'océan et sur la Lune.
Ah, donc il faudrait retourner sur la Lune.
Oui.
Parfait, puisque ça nous permet d'enchaîner sur le sujet de Valentin, qui lui ne va pas nous parler d'un voyage sur la Lune, mais plus exactement de la colonisation martienne. qui est prévu pour 2035, il me semble, ou 2033.
2033.
Eh bien, c'est à toi, Valentin.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui concerne le futur de l'humanité, la colonisation de Mars. Mais tout d'abord, je vais vous parler de quelques caractéristiques de Mars. Mars est la quatrième planète du système solaire. Elle a un diamètre de 6786 km, soit deux fois moins que la Terre. On y trouve de gigantesques volcans et de l'eau à l'état solide. Je vais maintenant vous parler des projets prévus pour coloniser Mars. L'objectif est une première mission martienne humaine qui aura lieu vers 2033. Mais le patron de SpaceX, Elon Musk, envisage l'arrivée des premiers humains sur Mars pour 2024. On y prévoit une grande cité martienne qui pourrait accueillir jusqu'à 1 million de personnes avant la fin du XXIe siècle. Je vais vous parler de la mission un peu plus détaillée. La mission a deux scénarios possibles. Le premier est 180 jours de voyage à l'aller, 550 jours sur le sol martien, puis 180 jours de retour pour une durée totale de 910 jours. Le deuxième scénario est le plus défavorable avec 180 jours à l'aller, 30 jours sur le sol martien, mais 430 jours pour le retour, qui donne une durée totale de 640 jours. L'objectif de cette mission est de faire entre autres des recherches sur la possible présence de vie dans le passé et des recherches sur l'eau. Les conditions de vie sur place sont très hostiles pour l'homme, avec des températures maximales de 10 degrés en début d'après-midi et minimales à moins 80 degrés la nuit. Il peut aussi y avoir des tempêtes de poussière qui balayent périodiquement la surface de la planète, et les faibles densités d'atmosphère laissent passer une grande partie des rayons cosmiques et des particules émises par les éruptions solaires. Voici donc la mission pour coloniser Mars. Merci de m'avoir écouté.
Merci Valentin. Donc, pourquoi aller sur Mars finalement ?
Bah, parce qu'on est en train de dégrader notre planète, alors il faut bien qu'on trouve un autre endroit où habiter.
Donc ce serait un scénario de secours, habiter sur Mars pour fuir la Terre qu'on a détruite. Et puis recommencer sur Mars, les mêmes erreurs ou...
Bah, l'objectif, c'est de pas se tromper cette fois-ci.
Oui, il faut espérer, oui. Bon, ouais. On peut aussi essayer de se concentrer. Alors, il y a un débat quand même assez vif sur la... Est-ce qu'il faudrait aller sur Mars ou est-ce qu'il faudrait plutôt essayer de dépenser l'argent dans la sauvegarde de la Terre, qui est pour l'instant le seul endroit habitable que l'on connaisse. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça peut faire débat, effectivement, parce que... oui, même... Dans mon cas, je ne me poserai pas la question, je pense qu'il faut mieux protéger la Terre. Mais je vois quand même des intérêts à aller sur Mars, notamment pour histoire d'être sécuritaire. Aujourd'hui, si jamais un astéroïde géant frappe la Terre, l'entièreté de l'espèce est détruite. Mm-hmm. Alors que si jamais on avait une colonie sur Mars, on resterait toujours. Donc il y a plein d'aspects, et je pense qu'effectivement la colonisation martienne se fera peu importe l'état de la Terre.
Oui, c'est vrai que c'est un point de vue intéressant en termes de survie de l'espèce, qu'on sauve la Terre ou non. C'est peut-être mieux de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Qu'est-ce que tu en penses, Maëlys ?
Moi, je pense que c'est une bonne idée.
D'accord. Valentin, tu as choisi ce sujet, donc j'imagine que...
Bah oui, je pense que c'est une bonne idée d'aller sur Mars. Oui.
Et moi, si je vous demande demain, allez, vous voulez aller sur Mars ? Vous voulez faire partie de cette mission de 800 jours à peu près ?
Peut-être pas tout de suite.
Peut-être pas tout de suite.
Moi non plus.
Non plus.
Non plus.
Mais dans l'avenir, Valentin, peut-être.
Bah, je sais pas, à voir.
Ah, c'est amusant. Moi, je signerai tout de suite pour ce genre de choses. Enfin, voilà. Bon, merci donc pour ce sujet, Valentin. Nous allons partir dans les étoiles avec une chanson de David Bowie qui s'appelle Starman pour la circonstance. Une chanson de 1972 qui déjà nous proposait un espoir dans les étoiles, dans un scénario imaginaire d'une planète qui serait en train de disparaître. Et qu'il faudrait fuir pour un meilleur endroit. C'est parti.
There's a starman waiting.
Nous sommes de retour pour l'émission Seconde Actu présentée par les élèves de Seconde B. Pendant la pause, les intervenants ont changé, je vais tout de suite les laisser se présenter. Donc bonjour Kélia.
Bonjour.
Ça va Kélia, tu as déjà fait de la radio toi?
Non, jamais.
Jamais, donc c'est une première tentative?
Oui.
Quelle impression ça fait?
Ça va.
Ça va, pas de stress particulier?
Ça va.
Tu as bien raison. Et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
De la grippe aviaire.
Bien, et bonjour Mathis.
Bonjour.
Et toi, c'est une première expérience?
Oui, aussi.
D'accord, donc jamais fait de radio, et tu te sens stressé?
Un peu, mais ça va aller.
Un petit peu, sans plus. Très bien, ton sujet?
Greta Thunberg.
Parfait. Donc, il est donc temps, après ce voyage dans l'espace avec David Bowie, de revenir sur Terre, après notre excursion martienne. Retour à la réalité quotidienne, les virus, les masques et les inquiétudes pour l'avenir. Donc, Elia va commencer par nous parler du sujet qu'elle a choisi, c'est la grippe aviaire.
Donc bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de la grippe aviaire. La grippe aviaire est une infection qui est provoquée par des virus grippaux de type A. Cette infection peut toucher toutes les espèces d'oiseaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Les animaux sauvages sont souvent asymptomatiques mais peuvent le transmettre aux animaux domestiques, tels que les oies, les poules ou encore les poulets, qui sont eux très touchés par cette grippe et le taux de mortalité y est très élevé. Mais elle peut également être transmise à d'autres espèces animales, comme le porc ou encore les mammifères, dont l'homme. Ce virus a été repéré pour la première fois en 1997, lors d'une épidémie à Hong Kong. Ce virus avait causé 6 morts chez les humains. Il va ensuite réapparaître en 2003, tout d'abord sous forme d'épizootie, c'est-à-dire que seuls les animaux étaient touchés. Le virus s'est ensuite développé chez les volailles, notamment dans le pays d'Asie, puis chez les humains. 282 morts avaient été recensées. Aujourd'hui, la grippe aviaire est de retour. Le 5 novembre dernier, 46 départements sont passés en alerte élevée. Les éleveurs des 46 départements concernés doivent confiner les volailles ou bien poser des filets de protection afin d'éviter un risque d'introduction de la grippe aviaire. Elle a d'abord été détectée en Russie et au Kazakhstan cet été, puis ensuite en Europe, plus précisément aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, où des cas ont été détectés. Depuis, le nombre de cas dans la faune et la flore ne cesse d'augmenter. Il est redouté que le virus se propage par la migration des oiseaux. Pour l'instant, la transmission ne se propage que très rarement de l'animal à l'homme et non de l'homme à l'homme. Cependant, ce dernier est redouté par l'Institut Pasteur, puisque l'évolution du virus entraînerait une pandémie et nous savons que dans les conditions sanitaires actuelles, cela serait encore plus difficile à gérer. Afin d'éviter toute contamination, il est recommandé d'éviter les surfaces contaminées par des excréments ou des sécrétions d'oiseaux. D'après l'Organisation mondiale de la santé, nous pouvons également continuer de manger de la volaille à condition qu'elle soit bien cuite. Alors dès qu'un foyer de contamination est identifié, les animaux sont mis en quarantaine et vont ensuite être abattus, ainsi que les animaux potentiellement contaminés. Une désinfection du matériel doit ensuite être réalisée afin d'éviter une propagation dans plusieurs fermes. À quoi ressemblera ce Noël 2020 ? Si même les dindes sont confinées, pourrons-nous en manger ? Et si oui, pourrons-nous la partager avec nos proches ? Mais surtout, la question que se posent tous les enfants, le Père Noël pourra-t-il assurer sa tournée malgré les restrictions sanitaires ? Une chose est sûre, tout le monde se souviendra de cette année 2020.
En effet, tout le monde s'en souviendra. Donc, retour de la grippe aviaire, un nouveau virus qui se transmet donc de l'animal à l'homme, comme le coronavirus. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette navigation comme ça d'un virus de l'espèce animale à l'espèce humaine et inversement ?
C'est pas très serein.
C'est pas très serein, c'est-à-dire ?
On se demande si on peut l'avoir en mangeant, même si c'est dit que normalement non.
A priori non, parce que la viande est cuite, donc à moins de la manger crue, peut-être que là on augmente les risques, mais d'accord. Et donc ce sont les oiseaux migrateurs, tu dis, qui transportent en fait finalement ce virus. Donc en fait ça peut venir de partout.
C'est
en fait, on est dans une période de migration des oiseaux en ce moment, vous le savez ?
Oui, il me semble que oui.
Oui, ça commence, oui, puisqu'ils vont se réfugier pour l'hiver en Afrique, hein, et que du coup ils sont en pleine migration. D'ailleurs, il y a 3 semaines à peine, on massacrait 18 millions de visons au Danemark, je crois, parce qu'ils avaient attrapé le coronavirus. Vous avez entendu parler de cette histoire ?
Bah oui, un petit peu à la télé, oui.
Est-ce que vous savez ce qu'on fait avec le vison ?
Non.
Non. Eh bien, le vison, ça sert à faire des fourrures, des vêtements en fourrure. 18 millions de visons qui ont été abattus. Qu'est-ce que ça vous inspire quelque chose aussi ou pas, ça ?
C'est beaucoup.
Oui, ça fait beaucoup. On imagine assez mal. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans une exploitation industrielle là, pour fabriquer 18 millions de visons. Non ?
Oui.
Ok. Donc, c'est pas grave, merci. Est-ce que vous êtes concerné, vous, directement ? Vous avez des animaux à la maison, des volailles ?
Bah, personnellement, non.
Non ? Tu en manges ?
Oui.
Oui, tu aimes ça, le poulet ?
Oui.
D'accord. Et toi, Kélia ?
Moi, j'ai 2 poules.
T'as 2 poules. Et oui. Tu as peur pour tes poules ?
Non, pas spécialement. Elles sont déjà plutôt confinées.
Elles sont déjà confinées, elles aussi. D'accord. Oui. Bon, bah, tout le monde est confiné. Ils n'ont pas de masque, rassure-moi.
Non.
Non. Bon. Très bien, merci. Nous passons au sujet suivant, qui est aussi un sujet environnemental, avec un personnage éminent qui se préoccupe justement de toutes ces questions. C'est Greta Thunberg, et c'est Mathis qui va nous en parler maintenant.
Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet, mais plus particulièrement d'une personne qui se bat au quotidien contre le réchauffement climatique. Cette personne se nomme Greta Thunberg. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'elle à la radio, à la télévision ou encore dans un journal. Elle se bat contre l'inaction face au changement climatique. Greta est une militante écologiste, âgée de 17 ans et vit dans la capitale de la Suède, Stockholm. Depuis maintenant 2018, Greta essaie à sa manière de faire changer certains avis à propos de cette crise en manifestant dans beaucoup de villes et en critiquant les politiciens et les personnes haut placées de leur inefficacité. Elle devient alors le symbole de beaucoup d'écologistes, même si elle reçoit certaines critiques et jugements néfastes face à leur regroupement. Elle remporte aussi plusieurs prix pour sa bravoure et sa détermination. En 2019, Greta fait partie de 100 femmes les plus influentes dans le monde. Donc ce sujet me tient particulièrement à cœur car Greta a beaucoup du courage, notamment quand elle se déplace dans le monde entier, mais aussi dans plusieurs parlements, comme le parlement suédois, européen, etc., pour exposer ses opinions. Je ne vous parlerai pas des causes et des conséquences du réchauffement climatique, mais je pense qu'à mon goût que l'on ne parle pas assez de ce que l'humanité a fait ou même devrait faire pour que la planète aille mieux. Nous vivons tous sous le même toit, alors s'il vous plaît, ne gâchons pas notre Terre, soyons responsables de notre avenir, ou bien l'humanité sera perdante.
Merci Mathis. Alors Greta Thunberg, qu'est-ce qui t'a fait découvrir ? Comment as-tu découvert en fait le combat de Greta Thunberg ?
Bah, je l'ai découvert dans les informations. Donc à la télévision, je l'ai entendu beaucoup de fois, donc j'ai voulu faire un sort d'exposé sur elle.
D'accord, mais c'est une bonne raison. Et toi, Kélia, tu connais ce personnage médiatique ?
J'en ai entendu un peu parler, mais pas spécialement.
Pas spécialement, tu ne suis pas spécialement ce qu'elle fait ?
Non.
Non. Et toi, Mathis, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu apprécies, donc, cette idée de se battre pour ses opinions, hein, finalement ? C'est ça qui, oui, qui t'intéresse chez elle. Est-ce que tu te sens capable, toi, de monter au Parlement ou de manifester, comme ça, tes opinions ?
Moi, non. Parler à un Parlement, compliqué pour moi, mais manifester, pourquoi pas,
on peut,
oui,
commencer à parler à la radio, et puis petit à petit faire son chemin, et puis finir au Parlement, qui sait ?
Peut-être, non, peut-être.
Et en termes d'engagement, toi, personnel, est-ce que tu, dans l'avenir, est-ce que tu t'envisages
oui,
ce type d'engagement ?
Oui, sérieusement, oui.
D'accord. Tu as une idée de la forme que ça pourrait prendre ?
Non, pas pour le moment, mais ça viendra.
Il n'y a pas de bac écologie encore, hein, pour l'instant. Mais peut-être que ça viendra, on peut l'espérer. Très bien. Alors, c'est aussi un personnage controversé, Greta Thunberg. On l'a souvent accusé d'être instrumentalisé. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'elle est dans une démarche sincère ?
Bon, oui, pour moi, oui.
Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle est l'outil de partis politiques, par exemple, écologistes ?
Bon, pour certains, oui, mais ça dépend des opinions.
D'accord. Eh bien, pour finir, je vais vous demander, Kélia, par exemple, ça fait quelle... Enfin, on vit quand même dans une époque formidable, avec des virus, des masques, des épidémies, un climat qui se réchauffe. Quel effet ça fait, en fait, quand on a 15 ans, de vivre une époque comme ça ?
Bah, c'est pas forcément évident. Après, s'il y avait juste les masques et respecter un confinement, ça irait, mais c'est pour notre planète et aussi pour nous que c'est pas forcément évident.
Mmh. Et pourquoi, pour toi, tout est lié, en fait ?
Un peu. Si on essayait de changer des choses, peut-être que certaines choses, on les éviterait.
Mmh. Et Mathis, tu partages ce sentiment ?
Oui. Oui, oui, c'est très compliqué, mais bon, on fera avec. Maintenant, ce sera dans nos habitudes, donc...
Ah, carrément, donc tu es résigné, tu penses qu'on va vivre masqué pendant combien de temps ? 10 ans ?
Ouais, j'espère pas quand même.
Non, vous n'allez pas vivre toute votre vie comme ça, enfin, je vous le souhaite pas, non, en tout cas. Ce serait terriblement dommage. Bien, ben merci à vous pour ces interventions. Seconde actu, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous remercions Gabriel à la technique, ainsi que toute l'équipe de Fréquence Sillée, 97.9 FM. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site internet de Fréquence Sillée, fréquence-sillée.org. À la semaine prochaine.